Résonance du feu.
En 2022, durant un été brûlant, un feu d'origine accidentelle a consumé près de 1300 hectares de zones boisées sur la commune de Mostuéjoul, en Aveyron. 2 ans après, que reste-t-il comme trace et mémoire de cet incendie pour les habitants? Je m'appelle Elsa Souchet et vous écoutez une série documentaire produite pour Radio Larzac. Un projet soutenu par la DRAC Occitanie dans le cadre d'une résidence de journaliste. Épisode 1, une étincelle aux bombes. 8 août 2022, en bordure du grand site des gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses, à la limite entre l'Aveyron et la Lozère. C'est l'été, la pleine saison. Il fait très beau, mais trop chaud. Tout le pays subit cet été-là une longue canicule et une sécheresse historique.
Il n'avait pas plu depuis assez longtemps et tout était très sec.
Et c'est rare ici qu'on ait 15 jours à 40 degrés d'affilée.
En milieu de journée, sur le plateau, un engin agricole achève son travail dans les champs. Il épand des boues issues de la station d'épuration de la laiterie industrielle toute proche. À l'arrière du véhicule, une pièce de métal racle sur la route et provoque des étincelles qui enflamment l'herbe sèche à plusieurs endroits. Certaines atteignent une zone boisée. Très rapidement, les pins sylvestres s'enflamment et le feu commence à grandir. 5 km plus bas, dans la vallée, des habitants signalent un panache de fumée.
Mais je me trouvais à Comeras, chez un ami, et tous les deux on est sortis, il m'a accompagné jusqu'à la voiture, et on a levé la tête et on a vu un filet de fumée qui démarrait, mais très loin hein, de Comeras, sur le sommet. On a dit, tiens, c'est curieux, on dirait qu'il y a un feu qui démarre.
Je dis, ça doit être peut-être un feu, mais moi, un feu de moisson. Et je dis, quand même, je vais aller voir, parce que je dis, les forêts sont pas loin. Donc je monte, bien avant d'arriver, plein de voitures qui descendent. Il y avait un type que je connaissais, je dis, qu'est-ce qui se passe? Ah, il dit, il y a le feu, et là, c'est catastrophique. C'est en train de prendre toute la forêt de pins. Et là, faut se barrer parce que on ne sait pas trop ce qui va se passer.
Vers 16h30, un collègue vient me chercher et me dit « Bruno, sur le Causse, il y a le feu ». Je me suis beaucoup inquiété parce qu'en regardant le fond de vallée, j'ai vu que c'était vers ma maison.
Bruno, il est connu ici. Il loue du matériel pour la Via Ferrata et propose l'été une buvette, le point de rencontre des habitants de Liocous, le second village de la commune, face à Mostuéjoul, en contrebas des falaises. Mais sa maison, à Bruno, elle est sur le plateau, tout près de là où est parti le feu, au lieu dit bombe.
Arrivé sur place, eh ben oui, incendie devant la maison, allez, on va dire 200-300 mètres. Un deuxième incendie, 150 mètres devant la maison, on loue des gîtes et des chambres d'hôtes. Ben, nos clients qui faisaient la navette avec des seaux pour éteindre le bord de la route, hein. Un deuxième incendie, un troisième incendie qui a démarré vers le Massegros. Bon là, qui a été très vite conscrit là, par les pompiers du Massegros. On était contre feu. Hein. Le vent, il part devant vous. Normalement, on risque pas grand-chose. J'étais pas rassuré pour autant, sachant que tout à coup, le vent peut tourner. Et puis après, une fois que c'est parti dans les pins, c'est parti comme un feu de paille.
Sur le Causse, comme on appelle ici les plateaux calcaires, le monde agricole s'active. Les paysans convergent vers le point de départ du feu pour le contenir. Ils apportent avec eux des citernes d'eau accrochées à leurs tracteurs et viennent mettre en sécurité leurs animaux et leurs fermes.
Les quelques feux que j'ai vus démarrer ici, la première eau qu'on a de disponible, c'est la plus précieuse. On m'a téléphoné que ça fumait. Je suis monté sur une butte où on me voit. Et entre-temps, j'ai un collègue qui m'a appelé. Il m'a dit « ça brûle ». Je pense que j'étais un des premiers, après les deux, trois premiers camions de pompiers, j'étais le premier sur le feu avec la cuve. Il y avait un camion qui avait déjà franchi une clôture pour essayer d'arrêter un départ de feu, enfin, le feu dans la forêt. Et quand j'ai dit « j'arrive avec 14 000 litres », eux, ils ont 4 000 litres sur leur porteur, il m'a dit « viens en relais avec moi ». Et dès que j'ai plus d'eau, tu me branches. Et pendant tout le temps, l'incendie avec cette cuve, j'ai servi à ça.
Et comment ça s'est passé? Donc il faisait chaud, donc l'après-midi, on était resté au frais, pour ainsi dire. Et puis un collègue qui nous a appelé, nous disant qu'on avait l'exploitation qui devait brûler parce qu'il y avait beaucoup de fumée. Donc on est monté sur le plateau, on a vu que c'était plus loin. On a avancé jusqu'au départ du feu. Nous, on avait quelques ruches, donc on les a enlevées vite fait avant que le feu arrive. Les gendarmes nous ont laissées, puis après, une fois qu'on a enlevé les ruches, il a fallu partir.
Donc de suite, je suis monté, effectivement, quand je suis arrivé là-haut, ben, il était temps que j'arrive parce que les bêtes étaient rassemblées dans l'angle de la clôture. Et donc, ben, avec mon fils et des gens du village, on a ouvert la clôture, on a descendu les bêtes par les bois, quoi, voilà.
Et à partir de là, on a été essayer de faire des coupe-feu pour aider un peu les pompiers, faire ce qu'on pouvait faire. Dans les parcelles, pour les parcelles et les lisières de forêt, en fait, pour essayer que le feu ne rentre pas dans les parcelles, pour couper un peu. Mais le feu allait trop vite, en fait.
Au village de Mostuéjoul, Christine Bedel, la maire et toute l'équipe municipale sont très vite assaillies de coups de téléphone et d'interrogations des habitants qui se demandent quoi faire. Face à l'urgence, les élus tentent d'agir au mieux en suivant les directives des pompiers et de la préfecture qui organise les secours.
Ah ben dans ce cas-là, bien sûr, on appelle le SDIS. Et puis, on met en place tout de suite, on appelle l'équipe municipale pour mettre en place notre plan de sauvegarde. Comme l'incendie s'est déclaré en Lozère et qui concernait donc deux départements, c'est la préfecture qui a pris en main la direction des opérations. Donc, on était en permanence en relation avec la préfecture.
Oui, alors, donc je suis Madame Calice Alexandra, chef du service interministériel de défense et de protection civile. Il y a un appel qui se fait de la part des ce qu'on appelle les services menants, c'est-à-dire là, en l'occurrence, on a un feu qui est déclaré. Donc c'est nécessairement c'est le SDIS, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers qui vont en être informés les premiers. Et donc c'est eux qui nous alertent en préfecture de l'incendie. On a des experts qui sont sur le terrain, le SDIS en l'occurrence, qui ont la maîtrise de la tactique opérationnelle sur comment je peux éteindre le feu. Ça, c'est tout ce qui relève du commandement opérationnel.
Donc capitaine Benoît Tomzac, du service d'incendie et de secours de l'Aveyron, en tant que chef de centre au centre d'incendie et de secours de Millau. On part en règle générale de l'origine du feu et on essaye de rétrécir les flancs le plus rapidement possible. Mostuéjoul, ça n'a pas été possible parce qu'on a eu un feu qui était très virulent, très puissant. Et du coup, avec le peu de moyens qu'on avait initialement, c'était très compliqué que de mener cette stratégie en place. Donc même si on a voulu passer un peu plus sur l'avant du feu, le feu était très, très puissant et allait très vite de manière à ce qu'on puisse le stopper immédiatement.
Pour faciliter le travail des pompiers, on demande aux agents municipaux de gérer les allées et venues sur les petites routes sinueuses qui mènent au plateau. Dans le même temps, la maison des Arzioles, la salle des fêtes de Mostuéjoul, devient le point de rassemblement.
Donc du coup, en bas, il y en a qui voulaient monter pour aller voir, il y en a qui descendaient parce qu'ils se faisaient évacuer. Et suite à ça, après, il y en avait d'autres qui arrivaient de l'autre route.
Donc nous, le peu qu'on peut faire, c'est juste éviter que ça en gêne les pompiers, quoi, le travail des pompiers. Donc après, on fait la circulation, on met des panneaux, on ferme les routes et on se met en bas pour informer les gens, essayer d'informer les gens.
Le feu, moi j'ai vu des fois que ça avance à une vitesse phénoménale, quoi. Et si il leur arrive quelque chose, qui c'est le responsable, hein? Même aux gens du pays. Après ils vont dire, ouais, tu l'as envoyé là-haut et puis son tracteur a brûlé, ça en est sorti, mais son tracteur a brûlé, qui c'est qui va payer? Voilà, moi c'était mon point de vue, je me suis peut-être trompé. Mais avec une citerne de 10 000 litres, quand vous voyez des feux comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire?
Il y a eu un groupe WhatsApp mairie qui a été créé très très vite pour communiquer le plus vite possible. Donc en tout cas, on s'en est servi comme ça. Il y a eu beaucoup de messages en fait qui sont passés par là. Tout était lié au vent, parce que si le vent avait tourné enfin, de manière forte à ce moment-là, le village pouvait être tout à fait inquiété. Bon, j'ai des amis à Bellevieille, et c'est vrai que je me suis tout de suite inquiété pour eux, parce que je me suis dit, ça doit pas être bien loin de chez eux, quand même, cette histoire. Donc on les a appelés après. Je pense qu'on leur a dit tout de suite quasiment de partir, parce que le feu était très très près.
Bellevieille, Le Vorce, Betz, ce sont trois des hameaux du Causse. Trois magnifiques lieux qui ont été, au fil des décennies, restaurés par des personnes qui ont voulu prendre soin de ce patrimoine au milieu de la nature. Certaines ont des attaches familiales comme Ambroise, Marie ou Armand, d'autres sont simplement tombées amoureuses de cet endroit, au point d'y vivre comme Isabelle.
Alors, l'été 2022, nous venions de fêter les 99 ans de mon père. Et le jour de l'incendie, c'était le 8, nous étions plus d'une vingtaine, hein, avec beaucoup d'enfants. Il y avait au moins une dizaine d'enfants. Et toutes les maisons du hameau étaient occupées. Eh bien, moi, je travaillais à l'intérieur où je lisais, je n'ai rien vu, et c'est une de mes nièces qui est venue me prévenir, il y a de la fumée, il y a un feu. Donc je suis sorti et j'ai vu qu'effectivement le feu était extrêmement fort et proche, et là j'ai dit, il n'y a pas à tortiller, il faut absolument partir, et donc évacuer. On pouvait évacuer par le sud, hein, vers le village de Moissejoul, impossible de remonter vers le feu bien sûr, mais on avait une porte de sortie.
J'étais allée à Sévrac pour faire des courses. Et j'ai vu une colonne de fumée dans la direction d'ici. Et puis, je suis arrivée au Vorce, et du Vorce, on la voyait encore. Donc, en fait, où que je sois sur le Causse, je voyais cette colonne de fumée. Et je me suis dit, ah, ça, c'est pas un petit feu de broussailles, c'est important. Et là, on s'est juste préparé, parce qu'on nous avait toujours dit, en cas d'incendie, rester dans les maisons, c'est l'endroit le plus sûr, attendre l'ordre d'évacuation. Donc, on avait préparé les affaires, on avait notre petit sac. Et puis on suivait, je grimpais sur le toit pour pouvoir voir où était la fumée.
J'étais ici avec deux amis, on s'apprêtait à partir en balade. C'est un des potes qui est là, qui à un moment me signale, Armand, je crois qu'il y a un feu. Je sors de la bergerie et j'observe. La colonne était fine au début. Et en fait, ça s'agrandit, ça s'élargit, et on voit que ça bouge. Et puis c'est, je dirais, peut-être une heure et demie après, c'est la mère qui t'a appelé pour dire, oui, en fait, il faut partir là. Et donc, on a pris les petites affaires, puis on est parti. Moi, je partais franchement pas inquiet, en me disant, ça va être maîtrisé, quoi. Et y compris, j'ai même le souvenir de pas avoir fermé la porte à clé derrière moi, en me disant, si ça se trouve, je reviens dans 2 heures.
Je somnolais dans mon canapé, quand d'un seul coup, j'ai entendu un bruit d'avion absolument inhabituel. Et j'ai tout de suite compris que c'était le feu. J'ai fait un sac avec livret de famille, livret des animaux, mon ordinateur. Un ou deux objets, là. J'ai pensé à Jean Cocteau. Qu'est-ce que tu emporterais s'il y avait le feu dans ta maison ? Se dit que c'est une catastrophe écologique. Les plantes, les animaux sauvages, c'est ça notre préoccupation. On n'est pas en train de se dire où est-ce qu'on va dormir. Parce que nous avons des voitures et on peut dormir dans nos voitures, à la limite. On sait aussi que on entend tellement d'avions, tellement d'hommes, de pompiers, de soldats du feu, qu'on se dit, ils vont y arriver.
Et donc là, en quelques minutes, on a rassemblé tout le monde. Et au moment où nous partions, un couple de gendarmes du Massogro est arrivé pour nous dire, il faut absolument partir. Parce qu'eux avaient dû traverser d'ailleurs les flammes. Ils avaient pris des flammèches sur la voiture. Ils étaient assez choqués. Et donc, nous sommes descendus en convoi sur Moissejoul. On s'est retrouvés très vite aux Arzioles.
Alors que le feu s'étend sur les hauteurs, l'ensemble de la commune prend conscience du péril grandissant. Dans les deux bourgs principaux, Moissejoul, Liocous, et plus bas dans la vallée, là où l'activité bat son plein pour les travailleurs saisonniers. Tout le monde s'interroge. Que se passe-t-il ? Sait-on vers où le feu se dirige ? Faut-il partir ?
Et j'étais sur Facebook, dans la cuisine. Et puis d'un coup, je vois passer une photo d'un de mes contacts, quelqu'un qui habite sur le secteur, qui marque, ça y est, cette fois, c'est Moissejoul. Et bon, je viens quand même du Vaucluse, donc je suis habituée aux incendies. Là-bas, ça, malheureusement, ça brûle régulièrement. Et j'ai quand même eu un temps d'arrêt parce que je me suis dit que c'est pas possible, ça peut pas brûler ici. C'est tellement unique, c'est tellement humide. C'est... Pour moi, c'était pas concevable que ça arrive là. Je suis sortie comme une folle et je me suis mis à marcher. Et puis de plus en plus vite, et puis de plus en plus vite. Et plus j'avançais, et plus je voyais des gens qui étaient pareils comme moi, en train de marcher et qui, ou stationnés sur le bord de la route, avaient les yeux en l'air. Et jusqu'au moment où je suis arrivée à l'entrée du village. Et là, je dis, c'est pas possible. Coupé en deux. c'est vraiment la sensation que j'ai eue, quoi.
Je n'avais pas peur pour ma sécurité physique, puisqu'il y avait du monde, je savais qu'on était à l'abri. J'ai vécu dans le sud, donc des incendies, nous en avons malheureusement côtoyé beaucoup. On a eu beaucoup de fumée, beaucoup de cendres, on avait mal à la gorge. Nous n'avons d'ailleurs pas compris qu'on ne nous demande pas d'évacuer à ce moment-là. Ma principale préoccupation a été de ne pas trop parler pour pas faire peur aux enfants, de façon à pouvoir partir... pas dans l'affolement, mais voilà, et ne pas générer plus d'inquiétude que nécessaire.
Tu vois toutes ces fumées pendant un sacré moment, jusqu'au moment où il y a des avions qui arrivent. Et tu dis, là, c'est sérieux. Et il commençait à tomber des cendres et des... Toi, le pin sylvestre a des écailles, ça tombait noirci. Donc là, j'ai commencé à nettoyer les toits. Parce que bah, y a des feuilles mortes, il y a les samars, c'est-à-dire les graines du tilleul. Donc je suis monté sur les toits avec le jet d'eau, ça ne puisse pas prendre feu.
Il y avait un espèce d'énorme champignon de fumée juste derrière le resto. Ça prenait un tiers de notre champ de vision. Moi j'ai souvenir d'un ciel orange avec un... presque un sentiment d'apocalypse, quoi. C'était d'un autre monde. Et il neigeait de la cendre, enfin il tombait de la cendre. Ça a été assez rapide. Au tout début, il y avait plutôt une colonne grise noire, pas si importante que ça, mais qui s'est quand même très rapidement développée en quelque chose vraiment d'immense, qui prenait un tiers du ciel pour moi, quoi.
Et cette chaleur de plomb et cette fumée noire qui monte dans le ciel. Et puis là, bon, après, voilà. Les images de l'enfance reviennent et je me dis, bon, ben voilà, ça y est, c'est fait, quoi. Avec tous les souvenirs et tout ce que je sais de la dangerosité d'un événement comme ça. Donc, la chaleur couplée au vent, ce vent qui tourne, le relief qui est... inhospitalier pour des services de secours. Donc je me dis, rapidement, ça va être très très compliqué.
Et là, on s'est rendu compte qu'on était dans un drame qui se déroulait sous nos yeux, carrément. C'était à la fois terrifiant et extrêmement fascinant, parce que le feu, c'est quelque chose de fascinant. Et donc, de voir s'embraser les arbres les uns après les autres, là franchement, on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose de très grave, qu'on a... En très peu de temps, c'est passé de la simple observation à attention danger, quoi.
Monstueux jour, on était sur un feu d'ampleur, un très grand sinistre, assez puissant. Et ça a été compliqué que de, avec le relève particulier, c'est les gorges, le plateau, des ravins sur lesquels ça pouvait se rentrer dedans. On pouvait avoir plusieurs flancs identifiés. Et donc, après, c'est des choix stratégiques de dire où est-ce qu'on va pouvoir traiter au mieux et ralentir au mieux le sinistre par les moyens aériens. Ce qu'il faut comprendre par rapport à l'engagement de cette demande de renfort, c'est que la stratégie de la lutte contre les feux de forêt en France, c'est priorité, ce qu'on dit, la priorité aux feux naissants. Et donc, effectivement, là, on a pu avoir rapidement cette validation de demande de renfort. Après, le vecteur d'acheminement, enfin le temps d'acheminement, que ce soit des moyens terrestres ou des moyens aériens, prend du temps et tout ce temps, le sinistre prend de l'ampleur.
Donc il y avait beaucoup de monde à la salle des arvioles, il y avait déjà les pompiers, il y avait tous les gens qui étaient complètement sans dessus dessous là, des différents hameaux. Et puis on a essayé, on a commencé à essayer de trouver des solutions pour les gens qui étaient là en fait.
le feu avançait assez rapidement vers le village, en fait, tout simplement. Le vent poussait le feu vers le village. Le sous-préfet de l'époque, présent, m'appelle en me demandant de monter au PC des pompiers qui était situé sur le Causse. Et puis on me demande donc en justifiant la décision, on me demande de procéder à l'évacuation du village de Mostujou.
Et donc évidemment, il y a aussi un dialogue qui se crée avec la mairie, puisque la mairie, elle doit pouvoir indiquer à la préfecture si elle est en mesure de pouvoir absorber ce flux d'évacuation. Et là aussi, assez vite, la maire nous a dit qu'elle ne serait pas en mesure, d'un point de vue matériel, d'un point de vue organisationnel, parce que comme nous, elle a des élus qui sont en congé, son personnel administratif, etc. Donc assez vite, elle nous dit qu'elle n'est pas en capacité d'eux. Et dans ce cas-là, la préfecture doit pouvoir l'aider, l'appuyer. Et donc on va commencer à prendre contact avec les maires limitrophes pour qu'on envisage l'ouverture de centres d'hébergement d'urgence qui ne soient pas que sur la commune de Mostujou, voire ailleurs tout court.
Malgré l'agitation grandissante, tous les habitants n'ont pas le même niveau d'information et ne réalisent pas encore l'ampleur du sinistre. Comme Françoise, retraitée habitant une maison isolée au bout d'un chemin sans issue, sur les pentes à l'ouest du village. C'est vers chez elle, et à un mot en contrebas, les lacs, que le feu progresse en début de soirée.
Il y a la mairesse qui m'appelle et qui me dit « Françoise, il va falloir évacuer. » Je dis « Ah ouais ?» Elle me dit « Oui, là, il faut que tu t'en ailles. » Moi, j'ai pas vu l'importance de la chose, donc je suis partie à Mostujou. Je suis allée voir les copains. Je suis partie comme j'étais. J'ai rien pris.
Je me retrouve chez d'autres amis en train de boire un apéro un peu spécial. On va vérifier si une voisine qui habite juste au pied de la montagne... Et bien chez elle, on lui dit, mais c'est grave en fait, il faut que tu prépares des affaires quoi, tu vas certainement devoir partir. Ouais, je me rappelle qu'il y a un autre ami qui est allé en vélo vers chez Françoise, parce qu'on savait pas exactement où est-ce qu'elle était. Enfin, la maison s'est isolée là, elle était pas répertoriée sur les cartes, donc ils savaient pas qu'il y avait quelqu'un qui habitait là, les pompiers. Donc ça donnait un sentiment total de panique et d'impréparation.
En tous les cas, tout le monde me secouait. Et du coup, on a fait une expédition. Et là, on a pris ma voiture. Et on est parti.
Oh, quand on est arrivé là-bas au virage, tout d'un coup, j'ai freiné. Et là, il y avait un mur de flammes là-bas. Un mur de flammes. C'était monstrueux.
On était sur le parking là-bas, à côté de la mairie, avec plusieurs voisins. La nuit, on ne voit plus la fumée. Mais on voit la lueur qui se reflète sur la fumée. Et à un moment donné, en regardant vers les lacs, là, on voit une flamme. Et en fait, on commence à voir les arbres qui s'embrasent les uns après les autres, en fait. C'est comme une torche. En fait, l'arbre, j'ai l'impression, il distille. Et puis quand ça a fait un bon nuage d'huile essentielle, ça s'enflamme d'un coup, ça fait fouf. Et en fait, ça fait à cette vitesse-là, ça fait fouf, fouf, fouf. Et ça progresse comme ça, d'arbre en arbre, et on voit des petites torches qui s'allument. Et là, on a fait, ouais, ça craint, il va falloir qu'on parte.
Bon, Françoise, concentre-toi. Qu'est-ce que tu veux prendre dans la maison et où c'est ? Ben, je sais pas, moi. Soit on prend tout, soit on prend rien, ça n'a pas de sens. Elle me dit, arrête. Qu'est-ce que tu veux qu'on prenne ? Alors je dis, on va prendre les photos, les diapos. Ah si, on va prendre mes carnets parce que j'écris. Ah puis on prend la chatte. Ok, Nico, il saute sur la chatte. Chut, il la maîtrise, on la met dans un panier, on bloque le panier. Et Nico, il s'en va dans la voiture avec la chatte pour pas qu'elle s'en aille. En un quart d'heure, on a dû tout faire ce qu'il fallait. Et on s'est barré.
Vers 1h du matin, c'est tout le village de Mostujou, ainsi que les campings voisins sur la rive du Tarn, qui doivent être évacués en urgence. Au fil de la nuit, plusieurs milliers de personnes quittent la vallée en croisant dans l'autre sens des colonnes de pompiers qui affluent de toute la moitié sud de la France. Car le feu est loin d'être terminé.
pendant qu'on observait l'incendie au loin, on a entendu les cloches de Mostuéjouls et de Liokouche. Et les cloches, c'est pas la même chose qu'une alarme, qu'une sirène. C'est un peu comme dans l'ancien temps. Moi, j'ai eu cette sensation de guerre, un peu, où les cloches sonnent, on s'en va.
C'était Résonance du feu, épisode 1, une étincelle aux bombes. Une série documentaire écrite et réalisée par Elsa Souchet et produite pour Radio Larzac. Un projet soutenu par la DRAC Occitanie dans le cadre d'une résidence de journalistes sur la commune de Bourg-Suéjoul, en Aveyron. À suivre sur radiolarzac.org.